Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
À quand la fin de la crise sociopolitique au Mali et à quoi est-ce qu'elle est lutte, quelle a été l'utilité de l'arrivée des chefs d'État de la CEDEAO au Mali? Ces questions seront abordées au cours de ce forum de la presse. Nous parlerons également des inondations au Mali. Pourquoi assiste-t-on au même scénario chaque année? Et nos invités sont Youssouf Sissoko du journal Info 7, Shahana Takiyou du journal 22 septembre et Yeya Tandina de l'ORTM Tombouctou qui est au téléphone. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Pas de compromis entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Les cinq chefs d'État qui étaient à Bamako hier pour une mission de conciliation n'ont pas pu trouver un compromis entre ces différentes parties. Shahana Takiyou, que pensez-vous de l'évolution de cette crise sociopolitique? Est-ce que cette mission des cinq chefs d'État a été utile?
Bon, je dirais que chaque fois qu'il y a des contacts, qu'il y a des rencontres, on peut parler d'utilité, même si le résultat escompté pour l'instant n'est pas au rendez-vous. Vous savez, la résolution des crises est un processus. On ne peut pas avoir le résultat escompté en une ou deux séances de travail. C'est un processus, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il va falloir écouter les différentes parties, faire des propositions, lesquelles sont souvent rejetées par une partie, acceptées par une autre, et avancer. Dans des situations comme ça, il y a toujours des blocages, mais il faudrait toujours travailler pour lever ces blocages. Est-ce que ça a été utile? De façon pragmatique pour le Malien, soucieux de la paix, de l'apaisement du climat politique, ça n'a pas été vraiment fructueux, cette visite n'a pas été utile, parce que les gens sont encore inquiets, parce que le M5, l'opposition radicale, qui demande le départ du président de la République, s'accboute toujours sur sa position. Donc on peut dire que pour le moment, vraiment, on ne voit pas le bout du tunnel, mais il faut garder l'espoir. Garder l'espoir, parce que toutes les parties prétendent parler au nom du Mali. Et toutes les parties prétendent défendre les intérêts du Mali. Donc si réellement, ce pour le Mali, je pense qu'à un moment donné, les deux parties doivent évoluer pour trouver un point de convergence afin que les Maliens puissent dire ouf, parce que les Maliens sont inquiets, ils sont inquiets et je pense qu'ils urgent vraiment de trouver la solution à cette crise qui n'a que trop duré avec l'insécurité que vivent les Maliens. Avec la pandémie de la Covid-19, les Maliens souffrent.
Les Maliens.
Avec la crise politique encore, c'est une souffrance de plus. Vraiment, il est temps de courter cette souffrance.
Cette mission n'a pas été utile, déclare Shahana Takiyou. Partagez-vous son avis, Youssouf Sissoko?
Oui, moi je partage entièrement son avis. Mais avant de développer en tout cas ce que je comprends en tout cas de cette médiation, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pieuse pour tous ces morts, en tout cas lors des événements des 10, 11 et 12 juillet. Et ces morts, franchement, c'est des morts de trop, des martyrs de trop pour en tout cas notre démocratie, une démocratie qui a été chèrement acquise en 91. Donc, et la médiation ne pouvait être qu'un échec. Hein, parce que d'abord, quand tu essaies d'analyser profondément. Et ceux qui sont venus, les chefs d'État, de la sous-région qui sont venus au Mali pour en tout cas rapprocher les deux positions, à savoir la position du régime Ibeka et celle du M5-RFP. En tout cas, ces chefs d'État sont venus, à mon avis, avec des propositions préconçues, des idées figées. Et ils ont tout simplement voulu, en tout cas, imposer ces propositions-là aux leaders du M5, en tout cas au mouvement populaire du M5. Et ce qui n'était pas du tout possible. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils ont oublié un certain nombre de dimensions. Et parmi lesquelles il y a d'abord les morts qu'il y a eu, en tout cas pendant ces journées chaudes, en tout cas des manifestations. Et ensuite, ils ont peut-être occulté aussi, relégué au second plan, les différentes crises qui secouent véritablement le Mali depuis pratiquement 7 ans, depuis l'avènement d'Ibeka au pouvoir. Donc quand tu viens pour une médiation, c'est vrai, ils sont venus peut-être en l'idée que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça c'est les élections législatives passées. Mais ces élections, en tout cas, c'est vrai, on levait en tout cas ce qu'on appelle, on fait ce qu'on appelle une levée de bouclier. Mais avant ces élections, il y avait quand même d'autres crises. Et le président nigérien a même reconnu les 4 crises majeures, à savoir la crise sécuritaire, la crise en tout cas sanitaire, la crise économique et la crise politique. Mais malgré tout ça, et si en tout cas les médiateurs ils viennent en tout cas pour sauver, comme pour paraphraser Maître Konaté, ils sont venus tout simplement sauver un homme et son régime et pas la République. Je pense que la mission de médiation ne pouvait être qu'un échec parce que tout simplement ils n'ont pas su appréhender en tout cas les différentes crises qui secouent le Mali. Et ils n'ont pas justement tenu compte des aspirations légitimes du peuple, en tout cas de cette frange importante du peuple qui est sortie le 5, le 19 et le 10 juillet. Donc vraiment, c'est regrettable quand même que nous soyons encore à la case départ.
– Yaya Tandina, il y a Ishana Takiou qui estime que cette mission n'a pas été utile. Youssouf Cissokho, lui, s'attendait déjà à un échec par rapport à cette mission de conciliation. Quel est votre point de vue, vous, sur cette mission des chefs d'État de la CEDEAO au Mali ?–
Merci, d'abord je voudrais saluer mes confrères, les jeunes frères Ishana Takiou et Youssouf Cissokho, et le studio Tamani pour l'initiative. Et moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas que la visite n'a pas été utile, mais elle n'a pas été fructueuse. Utile d'abord parce que c'est des valeurs qu'il faudrait voir et observer, parce que la CEDEAO au chevet du Mali, je crois que c'est déjà une bonne démarche de venir s'imprégner de ce qui se passe. Parce que d'abord, il faut que les gens comprennent, la médiation ne peut pas venir nous imposer une solution. La solution, elle doit être malienne. Et aujourd'hui, je sais que les deux leaders que nous avons, Ibrahim Boubacar Keïta et Mamoudou Diko, sont capables de se retrouver tout de suite et mettre les Maliens à l'abri de toute éventualité de violence ou autre chose. Donc, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que certains chefs d'État de la CEDEAO se sont déplacés parce qu'eux-mêmes, ils sont étouffés. Et l'exemple du Sénégal, où économiquement, en réalité, on sent qu'il n'y a pas d'activité, ils savent que 60% de leur budget, c'est le Mali qui en est à la base. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire également savent que leurs ports sont animés par ces mêmes Maliens. Et aujourd'hui, avec la crise économique, c'est les premiers pays touchés, ce sont ces deux pays. Donc, autrement dit, si vous voyez même la délégation, elle était partagée. Moi, j'ai dit, parce que quand le président canadien a dit qu'un aspect est quand même de la crise a été traité, mais il faudrait trouver aussi d'autres aspects. Parce qu'ils ont pris seulement l'aspect électoral. C'est ce qui a été en partie traité, mais il reste l'aspect gouvernance. Donc c'est sur ces aspects, c'est pourquoi j'ai dit au moins ils sont en train de baliser le terrain. De toute façon, les Maliens sont en train de voir qu'ils peuvent bien avoir une piste de solution. Mais Shahana l'a bien évoqué en disant que c'est un processus. Effectivement, une médiation, c'est un processus et il faudrait être optimiste. Et que si nous avons des valeurs que nous pouvons sauvegarder pour qu'aujourd'hui nous ne devions pas des animaux d'ailleurs, pour qu'on soit observé par les autres pays. Donc moi, je crois que la mission, elle a été utile, mais elle n'a pas été fructueuse pour le moment.
Donc vous pensez qu'elle a été utile, mais elle n'a pas été fructueuse. Mais est-ce que vous estimez tout de suite dans votre analyse que ces chefs d'État sont plus venus pour protéger leur fauteuil que pour aider à résoudre cette crise que vit le pays?
Non, sincèrement parlant, moi, je ne pense pas que Je ne peux pas le dire, le confirmer. Ils sont venus dans le cadre, comme certains le disent, que c'est un syndicat de chefs d'État. Moi, je ne le dirai pas ainsi parce que je me suis dit que, de toute façon, c'est une organisation internationale qui ne peut pas demander, c'est que nous, c'est que le M5 demande, le départ du président de la République, la CDAO ne peut pas demander, elle ne peut pas encourager. Mais autant il peut avoir des concessions, il y aura des concessions. Autant les deux parties également doivent avoir à faire des sacrifices pour que les Maliens puissent aujourd'hui quitter cette situation. Mais je sais qu'à un moment donné, parce que la CDAO a vécu beaucoup d'expérience dans ça, il y a des pays où ça chauffait, ils étaient venus pour négocier le départ des présidents. Et d'autre part, il y a aussi où ils ont pu sauver des situations comme ça. C'est pourquoi j'ai dit l'expérience leur permet aujourd'hui, c'est pourquoi il faut rester optimiste. L'expérience leur permet de gérer également cette crise malienne. Mais moi, je ne rentrerai pas dans la dynamique de dire qu'ils sont venus quand même sauver le fauteuil d'un chef d'État.
Mais quand vous dites que la mission a été utile mais pas fructueuse, selon vous, qu'est-ce qui a changé? Parce que l'imam Mahmoud Diko a déclaré que rien n'a bougé.
Oui, parce que l'imam s'attendait au moins qu'on parlait de l'autre aspect, il s'agit de la gouvernance. Et de ce côté, il n'y a pas eu de... Tout était penché sur l'aspect électoral parce que la mission qui a quitté, dirigée par Goodluck Jonathan, en réalité ne s'est intéressée que sur l'aspect électoral. Et donc, c'est sur cet aspect également que la délégation des chefs d'État également s'est positionnée pour pouvoir apporter ses propositions. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'imam a dit qu'il n'a rien dit d'abord, parce que lui n'a rien entendu qu'il puisse tout de suite leur calmer. Et donc, moi, je crois que c'est dans ce contexte que Mamoudou... C'est pourquoi j'ai dit qu'elle n'a pas été fructueuse. Mais moi, je crois qu'en réalité... Et nous allons attendre parce que ce n'est pas tout de suite la seule solution. Déjà, les chefs d'État se sont mis dans une position de se retrouver en vidéoconférence pour essayer de trouver des solutions. Et d'ici là, peut-être que les deux parties également, du côté du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et de Mahamadou Diko, qu'ils puissent avoir des concessions et qu'on se retrouve. Ensuite, il y a un aspect qu'il faudrait beaucoup faire attention. Moi, je ne voudrais pas qu'en réalité, que cette crise malienne soit gérée par l'extérieur. Nous avons des valeurs fondamentales sur lesquelles nous pouvons nous baser pour pouvoir résoudre nos propres problèmes. C'est pourquoi souvent, il faut même minimiser l'apport des médiateurs extérieurs et pour que les Maliens eux-mêmes entre eux se retrouvent et trouver leurs propres solutions. Je crois que c'est la formule, c'est peut-être que l'attitude adoptée par l'imam et peut-être que même Ibeka est animé de cette foi.
Vous qui pensez que cette mission n'a pas été utile, est-ce que vous partagez cette réaction de Mahmoud Diko qui dit que rien n'a bougé?
D'abord, tu me permets de saluer mon grand frère et estimé confrère Yahya Tandina depuis la cité des 333 saints. Ensuite, par rapport à la déclaration de Mahmoud Diko selon laquelle rien n'a bougé, je pense que dans les faits, c'est la réalité. Rien n'a bougé. Je pense que ils n'ont pas compris certainement la mission des chefs d'État.
Qui n'a pas compris?
Le M5. Le M5. Cette mission des chefs d'État, de mon point de vue, n'est pas une mission qui est venue pour renégocier cette CDAO. A envoyé une mission présidée par Goodluck
Jonathan.
Qui a fait un travail sanctionné par un rapport final. Vous pensez que les chefs d'État qui ont mis cette éminente personnalité en mission viendraient ici à Bamako pour le désapprouver? Que non.
Alors, qu'est-ce qui est le plus important? La résolution de la crise ou la personnalité de...
J'arrive. Non, ce n'est pas la personnalité. C'est-à-dire que j'ai dit mission dirigée par cette personnalité qui a fait un travail. Avant de rendre le travail public, il échange avec ses mandataires. Et tous savent le contenu du rapport avant publication. Ils savent ce qui a été publié. Donc moi, de mon point de vue, ils sont venus pour soutenir moralement le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et écouter encore pour plus de considération les leaders du M5. Ils ne sont pas venus pour renégocier. Donc certains pensaient qu'ils venaient à Bamako pour renégocier ce qui avait déjà été fait, que non. Voilà qu'ils ont écouté l'imam du Co et les leaders du M5-RFP. Ils ont entendu également le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et ils ont décidé d'aller de l'avant. Maintenant, on peut espérer à une autre décision parce que avec la conférence des chefs d'État prévue, je pense, la semaine prochaine, lundi, avant quand même la fête, est-ce que vous voyez, au niveau de cette conférence, je pense qu'il pourrait avoir une décision. J'imagine quelle décision ces chefs d'État pourraient prendre pour qu'on puisse avancer. Je pense avec l'accord du président Ibrahim Boubacar Keïta, de deux choses, une ou deux. Soit ils vont demander à Ibeka de sacrifier le Premier ministre Boubou Cissé, ou de dissoudre l'Assemblée nationale, ou le deux à la fois, parce qu'on ne peut pas rester sur cette situation. Il faut que les lignes bougent. C'est vrai que les morts, les martyrs ont une place importante dans cette situation. J'entends souvent que la CEDEAO n'a pas parlé de martyrs à négliger. Que non, dans le rapport final, la CEDEAO a bel et bien demandé qu'une enquête soit menée et que justice soit faite. Donc, je pense que la CEDEAO, elle est droite dans ses bottes. Elle a des principes. Elle a une charte. Ce n'est pas parce que aujourd'hui le Mali a des difficultés réelles, que la CEDEAO va changer ses principes, sa charte, pour l'adapter au contexte malien. Que non. La CEDEAO, le Mali est membre de cette organisation depuis très longtemps, membre fondateur. Donc, les textes s'appliquent à tout le monde et de la même manière. Pour terminer, mon estimé frère Yaya Tandina a évoqué une éventuelle médiation malienne au niveau du Mali même, qu'on trouve nous-mêmes les solutions. Je voudrais dire à Tandina que cela n'est pas possible aujourd'hui parce que les ressorts sont cassés ici au Mali. Les ressorts sont cassés, sont brisés. Les religieux, vous m'excusez, sont tous politisés. La société civile est politisée. Est-ce que vous voyez ? Nos griots sont politisés. Il n'y a pas de personne ressource morale au-dessus de tout soupçon que les différentes parties pourraient écouter. Malheureusement, hélas. On a vu en 2012, c'est la CEDEAO qui a résolu notre crise. Les différentes rébellions, c'est toujours à l'extérieur. Nous sommes incapables ici au Mali, par nous-mêmes.
Est-ce qu'elle a été résolue ?
Quoi ?
La crise.
Quelle crise ?
Vous parlez de 2012 que la CEDEAO a résolu.
A résolu parce que la CEDEAO a obtenu le départ du président ATT. Ça, après coup, parce qu'il y a eu putsch. Le putsch a été consommé. C'est pourquoi la CEDEAO est en train de se battre. En tirant les leçons de 2012, il ne faudrait pas qu'il y ait un putsch, que ce soit civil ou militaire, et après, elle viendra ici encore pour des arrangements juridico-politiques. Que non, il faudrait prévenir que guérir. Je pense que la CEDEAO est dans cette logique. Et vraiment, il faudrait comprendre la CEDEAO. Elle est dans son rôle. Elle a des textes qu'elle est obligée d'appliquer. Elle est droite dans ses bottes.
D'accord. Quand vous dites que la CEDEAO, cette mission des chefs d'État, est venue soutenir moralement le président Ibrahim Boubacar Keïta, alors la question qui se pose, le président est-il déstabilisé face à cette situation ?
Bien sûr. Bien sûr, le président est déstabilisé. Le président est affaibli. Parce qu'il n'a même pas de soutien. Si nous sommes dans cette situation
aujourd'hui... Même la majorité ?
Une majorité molle. Une majorité incapable de faire face à l'opposition. Une majorité incapable même de débattre avec les leaders du M5. Quelle majorité ? Il n'a qu'une majorité de façade. Une majorité molle. Une majorité qui bénéficie des privilèges du pouvoir mais qui ne fait pas le travail. C'est une majorité aussi qui ne fait pas la vaisselle. Cette majorité, elle est quelque part à l'origine de la crise, parce qu'elle ne fait pas le travail qu'elle devrait faire. Malheureusement, Ibeka Et aujourd'hui, dans un trou, je pense que sa majorité est complice de la situation. Quand bien même qu'Ibeka lui-même a une responsabilité dans la situation, il faudrait le reconnaître.
D'accord. Youssouf Cissokho, est-ce que vous partagez ces analyses de Shahana par rapport notamment à au fait qu'il pense qu'aujourd'hui, aucun Malien n'est capable de résoudre cette crise, que c'est l'extérieur qui pourrait le faire et que Ibeka est aujourd'hui affaibli et n'a aucun soutien?
Non, je ne partage pas entièrement cette analyse. Et je vais revenir un peu en arrière pour évoquer bien sûr les différentes médiations. Parce qu'avant la venue des cinq chefs d'État, il y a eu d'abord la mission conduite par le ministre des Affaires étrangères du Niger. Et cette première mission a échoué. Et il y a eu une seconde mission conduite par le Goodluck Jonathan, bien sûr. Et cette autre mission aussi, pour moi, n'a pas été en tout cas à la hauteur. C'est après ces deux missions-là que les cinq chefs d'État ont décidé de venir, de voler en tout cas au chevet du Mali qui est malade. Et c'est cette...
Au chevet du Mali ou du président? Parce que c'est ce que pense...
Bon, du Mali et de son président, bien sûr, les deux à la fois. Parce que j'ai dit dans mon intervention qu'ils sont plus en tout cas préoccupés par le fauteuil présidentiel que par la situation réelle du Mali. Ça, j'ai cette impression-là. Maintenant, puisque même la troisième mission aussi a échoué, parce qu'à écouter Mahmoud Diko, on sent qu'il n'y a aucun doute que la partie M5 RFP n'est pas du tout contente. Elle n'est pas d'accord, en tout cas, avec les propositions faites par la mission de cinq chefs d'État.
Mahmoud Diko a même déclaré « Je préfère mourir en martyr que de mourir comme un traître ».
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la CEDEAO, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, la CEDEAO ne pouvait qu'échouer. Et en 2012, il a rappelé, il a bien fait de rappeler cela. En 2012 même, elle a échoué également parce que c'est vrai, ATT a démissionné. Et c'est vrai que Diongounda a géré la transition. Mais jusque-là, le Mali n'est pas sorti justement de cette crise. Ça veut dire tout simplement que la CEDEAO part souvent au plus pressé en essayant de résoudre en tout cas la crise immédiate, en laissant, en occultant carrément les autres crises profondes qui secouent le pays. Alors cette gestion en tout cas de différentes crises ne pouvait être en tout cas qu'un échec à la longue. Maintenant, s'agissant, n'est-ce pas, de ressorts dont il a évoqué tantôt, moi je l'ai dit dans une autre émission, sur un autre plateau, que le Mali ne manque vraiment pas de ressorts pour que nous, Maliens, nous puissions nous asseoir et résoudre en tout cas nos différentes crises. Mais moi, je veux peut-être plus loin. Et moi, je dirais tout simplement que si on n'arrive pas justement, s'il y a cette crise de confiance, c'est parce que le président de la République a sa très grande part de responsabilité dans ça. Et franchement, moi, je pense qu'en tant que père de la nation, c'est lui qui devrait se mettre au-dessus de la mêlée. Mais malheureusement, il n'a pas joué justement ce rôle de père. Et c'est ce qui a rendu justement la situation très difficile. Et moi, pourquoi solliciter en tout cas la CEDEAO alors que nous-mêmes, nous avons nos mécanismes, en tout cas, de résolution des crises chez nous-mêmes. Moi, je pense que
Shahana pense que tous ces mécanismes sont
politisés.
Non,
je pense que c'est vrai, les religieux, la société civile, ils sont toutes ces entités-là sont politisées. Mais moi, je pense que nous ne manquerons pas, justement, même du côté universitaire, pourquoi pas. Nous ne manquerons, il suffit tout simplement que le père de la nation, qui est le président de la République, que lui se mette, en tout cas, au-dessus de la mêlée, qu'il accède même aux revendications.
Il est dans la mêlée, comment voulez-vous que ce
soit possible ? Non, se mettre au-dessus de la mêlée, ça veut dire tout simplement qu'il doit être à l'écoute de son peuple. Parce que j'ai comme l'impression qu'il est toujours accroché, en tout cas, à ses privilèges, à son fauteuil, à ses prérogatives. Alors que le Mali est dans une situation, il faudrait qu'il le... C'est ce que j'ai tout le temps dit, il faut qu'il descende, en tout cas, de son piédestal pour être, en tout cas, à l'écoute de son peuple. Parce que ces gens-là, les M5, peut-être chacun peut avoir, en tout cas, son opinion là-dessus. Hein. Et bon, c'est des gens, ils ont eu à gérer avec Ibeka, c'est des anciens ministres. Mahmoud Diko, il est dessus parce qu'il a été... Mais pour moi, analyser comme ça, c'est peut-être réduire tout simplement, en tout cas, la crise à un problème de personne. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à Mahmoud Diko, ce n'est pas lié à Choguel, ce n'est pas lié à Muntaka, c'est parce qu'il y a une crise profonde. Il faut que les gens comprennent cela. Et quand il y a une crise profonde, il faut des solutions adéquates, des solutions idoines pour sortir de cette crise. Et apparemment, Ibeka n'est pas dans cette posture.
Si Ibeka est affaibli et ne bénéficie d'aucun soutien comme le pense Shahana, est-ce que le M5 a raison aujourd'hui de demander son départ?
Vous savez, demander le départ d'Ibeka, moi je pense que c'est juste une base de négociation pour le M5. Vous l'avez vous-même constaté, dans leur mémorandum, ils avaient enlevé ça pratiquement. Au départ, c'était le départ d'Ibeka, mais après consultation, après en tout cas négociation, ils ont enlevé cet aspect-là. C'est quand il y a eu mort d'homme maintenant qu'ils ont remis en tout cas la démission du président de la République. Et moi, je pense que jusque-là, j'ai comme l'impression que Ibeka n'est pas conscient justement de la profondeur de la crise qui secoue le Mali. C'est pourquoi alors attendre jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme pour en tout cas démembrer la Cour constitutionnelle, alors qu'il ne restait plus que trois ou quatre membres, les autres avaient déjà démissionné, un est mort, paix à son âme. Donc moi je pense que pourquoi attendre qu'il y ait en tout cas ce rapport de force-là pour ensuite poser des actes. Et ces actes-là pouvaient être posés avant que la crise ne s'envenime, à mon avis.
D'accord. Yeya Tangina, sur Facebook, il y a Issouf Tiemoko Sogodogo qui pose une question. Une crise multidimensionnelle peut-elle être résolue à travers des rencontres de 30 minutes? C'est sa question.
Ça, c'est... On ne peut même pas le faire, on ne peut même pas l'imaginer. Allô?
Oui, vous avez entendu la question?
Oui, j'ai entendu la question d'Issouf sur Facebook.
Oui.
Voilà, donc je disais que ce n'est même pas possible en 30 minutes, même si c'est sur un seul sujet, je sais que c'est difficile pour une rencontre de 30 minutes de résoudre un problème. Et là, il ne fallait même pas s'y attendre à un résultat. Et ça, c'est un. Maintenant, par rapport au mécanisme de gestion, pour dire à M. Chahana, nous avons l'habitude, après tout, on se retrouve pour dire quand même, on s'excuse si chacun reconnaît ses erreurs, dire vraiment je m'excuse. Et puis venez ensemble, nous allons faire ça. Le président de la République peut le faire. Je crois que c'est pourquoi j'ai dit la solution malienne, elle est possible. Il y a des erreurs, je le reconnais. Et aujourd'hui, j'appelle tout le monde, M5 RFP, venez. Nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Ainsi de suite. Donc les Maliens, entre eux, peuvent bien apporter la solution. Donc tout n'est pas grillé. Moi, j'ai de l'espoir, je sais que ça va finir par ça, tôt ou tard. Et maintenant, par rapport toujours à la visite de la CEDEAO, je voudrais tout simplement dire que quand vous verrez la CEDEAO au niveau de toutes les crises, en réalité en Afrique même, elle n'a pas pu résoudre une seule crise, mais elle a toujours apporté une touche pour faciliter soit le départ, pour faciliter soit soutenir. Mais j'ai dit de toutes les façons, pour nous, c'est des valeurs qu'il faut conserver, parce que chaque fois que le voisin vient te voir pendant que tu as des difficultés, ça ne te permet pas toi-même de te ressaisir. Donc voilà, nous sommes pris en témoignage par tous les chefs d'État voisins qui sont venus nous voir. Rien que pour ça, nous pouvons prendre conscience nous-mêmes et régler notre problème. Mais j'ai dit que la visite, quand même, si elle n'a pas été fructueuse, mais elle est quand même utile, il faut le reconnaître.
Alors si que ces deux parties n'arrivent pas à trouver un compromis d'ici la fin de la trêve, jusqu'à la fin de la fête de Tabaski, quels peuvent être les risques?
Bon, les risques quand même sont grands, Mamadou Touré, il faut le voir, parce que d'abord, non seulement les populations sont actuellement étouffées, dans les régions du Nord, si vous observez, vous voyez que toutes les activités sont arrêtées. Les ONG, les services étatiques, tout est arrêté. Donc les populations elles-mêmes vivent du jour au jour. Cela veut dire qu'aujourd'hui, même les fonctionnaires risquent d'aller au marché pour aller chercher la main d'œuvre banale pour se faire manger. C'est des questions auxquelles il faut se poser. Donc, nous croyons que cela ne que l'armée ne se mêle de la danse. Et c'est ce qui peut nous coûter cher et aller jusqu'au-delà de nos attentes. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Je crois que les Maliens vont trouver la solution d'ici là.
Quelle est l'urgence pour trouver une solution à cette crise, Chana?
Il y a bien urgence à trouver une solution à cette crise. Je comprends bien mon frère Yahya qui pense toujours à une solution malienne. C'est un mirage, Yahya. Une solution malienne n'est pas possible. C'est souhaitable. Mais au regard des faits, des réalités, ce n'est pas possible. En 1991, il y a eu une crise politique. En 1997, il y en a eu. En 2012, il y en a eu. Aujourd'hui, nous sommes dedans. Toutes les crises politiques que nous avons eues n'ont pas pu être gérées par la société malienne, par nos ressorts. Malheureusement.
Toutes les crises à partir de...
Toutes les crises politiques, je dis bien. Mmh. Toutes les crises politiques, même quand tu remontes encore plus loin. Si c'est politique, c'est encore compliqué. Si c'est des tensions sociales... Je comprends à Tombouctou, si l'imam de Tombouctou, Ben Assayout, intervient dans une situation, ça prend fin. Hein, si le chef traditionnel Alpha Mama intervient dans une situation, ça donne des résultats. Nous avons ces ressorts-là dans beaucoup de nos localités, dans nos villages. Ça existe. Il y a des griots, quand ils interviennent, ils parlent, c'est terminé. Même si tu as tort, tu laisses.
Pourquoi ne pas les impliquer dans la résolution de cette
crise? Mais ils se sont grillés, ces gens-là.
Même les imams Bene Seyoutou de Tombouctou?
Bon, Bene Seyoutou, il est à Tombouctou, il est membre du Haut Conseil des collectivités. Le Haut Conseil des collectivités intervient au niveau national. Mais le Haut Conseil des collectivités, et ils sont déjà opposés à l'imam Diko, qui est un des protagonistes. Il est très difficile que ces gens-là puissent faire l'arbitre, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, l'imam Diko est peint comme étant un rival du bureau actuel du Haut Conseil islamique.
D'accord. Dans ce cas, la solution est-elle le départ du président de la République, Chana?
Non. Vous savez que nous sommes en politique. Mm. La politique est très difficile. Mm. Aucun président ne peut se démettre de cette manière. Aucun président, parce que un pan entier du peuple, hein, les gens qui sont sortis, qui ont manifesté, c'est des gens très importants. Ils sont représentatifs. Même si je ne rentre pas dans le débat, ils sont le peuple ou ne sont pas le peuple, c'est que sûr, c'est des gens influents qui sont importants. Ils doivent être écoutés. Ce n'est pas parce qu'ils revendiquent quelque chose qu'il faudrait obligatoirement les leur donner. Que non, que non. Nous sommes en politique. Le président a été élu démocratiquement à peine 2 ans. Ils étaient tous candidats avec les scores que nous connaissons. Ils ont été lamentablement battus. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a de vrais problèmes. Que ce soit Diko, Choguel ou même Sissoko, n'importe qui sortirait dans la rue pour tenir ce discours-là pourrait être suivi parce qu'il y a un malaise social qu'on ne peut pas cacher. Le malaise est là. Le malaise social est perceptible. Il est lisible. Il est visible. Il revient au président de la République de prendre en charge ce mécontentement populaire.
Si
mécontentement,
il
y a.
Comme vous le dites, est-ce
mais
qu'il a
ce mécontentement
de le
populaire
faire.
Ne passe pas forcément par sa démission. Que non. Je trouve que, comme il l'a dit, c'est une base de discussion pour même préciser ce que vous avez dit. Ce n'est pas après les morts qu'ils ont remis la démission du président sur la table. C'est bien avec le meeting du 10 juillet, avant les morts. Est-ce que vous voyez?
N'est-ce pas après le discours du président de la République?
Comment?
N'est-ce pas après le discours du président de la République?
Oui, après le discours du président. Le président de la République, je trouve personnellement qu'il est lourd dans la décision. Il est lourd dans la décision. Le démembrement de la cour dont il a fait cas récemment, il aurait pu le faire avant le meeting du 10 juillet. Il est lourd dans la...
En ce cas, Chana, vous dites qu'il est lourd dans les décisions. Il est affaibli, il n'a pas de soutien. Et vous estimez que c'est lui qui doit trouver une solution à cette crise, excusez-moi. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il a ses capacités face à tout ce que vous dénoncez et le concernant?
Absolument. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où il faudrait que nous l'aidions tous. Opposition, majorité, société civile, nous devons concourir à aider le président de la République, pas pour lui-même, mais pour le Mali.
Peut-il compter sur cette aide? L'opposition surtout, la société civile.
Mais vous savez, moi j'ai tout le temps dit que si Ibeka a un soutien, s'il a un ami dans cette crise-là, c'est son rival Mamoud Diko, c'est l'imam Mamoud Diko. L'imam Mamoud Diko lui a donné tellement de portes ouvertes, lui a fait tellement de propositions que si Ibeka, franchement, avait non seulement, s'il avait pris conscience justement de la gravité de la crise, il allait tout simplement accéder aux revendications du M5. Mmh. Pas toutes les revendications, mais certaines revendications moins.
Et aujourd'hui, quelle peut être la solution?
Avant de passer à la solution, moi, j'aimerais tout simplement rebondir un peu sur ce que Charles a dit.
Rapidement, pour
parce qu'il dit tout simplement que la démission du président de la République a été remise en tout cas dans les points de revendication du M5 après le 10. Justement, c'est parce que à partir du 10 qu'il y a eu tuerie. Après tuerie. Mais je veux tout simplement dire que la démission du président de la République, nous convenons tous que c'est une équation à plusieurs inconnus. Parce que si le président démissionnait tout de suite, franchement, on ne sait pas qui va gouverner. Parce que le camp d'en face qui est pour le moment silencieux, ce camp-là ne va jamais accepter que l'autre camp gouverne. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être l'entité la mieux organisée qui est l'armée qui va intervenir. Et quand l'armée intervient, ça s'appellera coup d'État.
Dans ce cas, doit-il accepter le titre honorifique que
bon,
nous propose?
Franchement, moi je pense que Ibeka aujourd'hui doit accepter comme solution. Mmh. Il doit accepter de partager les responsabilités maintenant avec son opposition. Parce qu'il est très affaibli, comme il a si bien dit. Et j'ai comme l'impression que...
Mais en partageant, qu'est-ce qu'il doit leur laisser? Une liste de plein pouvoir?
En partageant, c'est-à-dire que les revendications du M5-RFP, par exemple, un gouvernement dino national avec un premier ministre plein pouvoir. Moi, je pense que ce n'est pas de la mer à boire. Et la Cour constitutionnelle, déjà, ça, c'est derrière nous. Il reste tout simplement à la remembrer. Sinon, elle est partie déjà. Donc, maintenant, pour l'Assemblée nationale, moi, je pense qu'on peut revoir. On peut revoir, ça dit que les députés qui sont supposés être mal élus, ces députés doivent pouvoir, en tout cas, démissionner au nom du pays. Pour, en tout cas, pour qu'on puisse trouver très rapidement une solution à la crise au niveau de l'Assemblée. Mais c'est les trois questions, c'est les trois revendications principales, la réalité du M5. Mais ces trois revendications-là, franchement, Ibeka, en les acceptant, c'est comme s'il accepte en tout cas de partager les responsabilités maintenant avec son opposition pour sortir le Mali de cette crise. Parce que d'ici 2023, franchement, il faudrait que nous sortions. Nous ne pouvons pas, le Mali ne peut pas continuer à ce rythme-là. Sinon, il va s'effondrer totalement.
D'accord. Et il faut rappeler que concernant la Cour constitutionnelle, certains des membres ont soumis un recours gracieux. Parlons maintenant du deuxième sujet de ce forum de la presse, les inondations. Selon le directeur régional de la protection civile de Bamako, cette année, il faut s'attendre à pire que l'année dernière. Yeya Tandina à Tombouctou, quelle est la situation aujourd'hui?
La situation elle est alarmante. Déjà, nous savons qu'au niveau de Kiri et Koundam, la question se pose. Et à Tombouctou, avec deux pluies déjà, là, nous avons vu que les mares ont repris quand même de l'eau. Et certaines maisons, nous avons déjà compté 3 à 4 maisons qui sont tombées. Et cela veut dire que nous devrons nous attendre, c'est juste s'il y a déjà des... Et le problème qui se pose dans ces localités, c'est que il n'y a même pas de projet par rapport à l'évacuation ou bien des perspectives pour ces inondations. Et depuis un certain temps, les populations se sont soulevées pour demander, mais en réalité, jusque-là, aucun partenaire, et sinon même les communes qui en charge quand même de prendre ça, ne font absolument rien. C'est pourquoi vous voyez qu'à Koundam, tout récemment, les mares sont remplies. Aujourd'hui, les rues, les écoles sont entourées d'eau. Et ça pose problème. Même au cas où il y a des familles sinistrées, c'est difficile de les amener dans ces écoles qui sont déjà dans l'eau. Et c'est un peu compliqué.
À Douanzan également, plus de 200 maisons se sont effondrées il y a quelques jours. À Bamako, 3 morts ont été enregistrées suite à ces inondations. Shana Takiyou, pourquoi assiste-t-on au même scénario chaque année ou sinon même pire?
Les mêmes scénarios chaque année parce qu'il y a l'urbanisation qui est très mal faite. Je rebondis d'abord sur ce que Yahya a dit par rapport à Tombouctou, Koundam et Diré. C'est vrai que c'est des villes qui ont toujours été laissées pour compte. C'est-à-dire que la malgouvernance, là, ça a commencé depuis très longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les régions du Nord sont les grandes victimes.
Mais est-ce que les régions du Sud également ne subissent pas la même chose?
Ils subissent bien sûr, mais là-bas, c'est encore pire. C'est-à-dire que il n'y a pas de projet, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de caniveau là-bas. L'eau vient à Koundam, à Diréy. C'est des mosquées qui sont tombées, des maisons. Ce n'est pas possible. Les gens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Il n'y a même pas de perspective. C'est ça le problème.
Mais certains estiment qu'il y a des projets, il y a des financements. Il n'y a rien. C'est mal géré.
Les financements, on les amène à Tombouctou, à Diréy, puis on les ramène ici à Bamako pour construire des villas, des maisons, ainsi de suite. Ils sont détournés.
Qui fait ça?
Les représentants de l'État. C'est les représentants de l'État. C'est l'État. Ce sont les représentants de l'État. Ceux qui représentent l'État. C'est eux les voleurs. C'est eux qui détournent. C'est l'État. Ce n'est pas autre chose.
Donc il n'y a même pas de perspective. Le sommet de l'État est responsable de cette situation.
Bon, le sommet de l'État est quelque part responsable parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a une certaine impunité dans notre pays. C'est ça le problème aussi. C'est ça le problème. Maintenant, pour revenir à Bamako, sinon au Mali de façon générale, vous savez, ici à Bamako, le problème au niveau des mairies, les ventes de terrains dans l'anarchie, sans respecter les normes établies. Les gens construisent dans le marigot, dans le fleuve. Selon que tu sois riche ou faible, on ferme les yeux sur ton projet. Moi, je suis à Zerni. Pas plus 3 semaines. Il y a un Djokoramé, je ne veux pas citer le nom, qui a construit une station vers Atitebougou, dans le marigot. Il a pris une bonne partie du marigot, il a fait sa station là-bas. Un jour même, un remorque peut s'effondrer à ce niveau-là. Les techniciens qui sont chargés de faire le contrôle ne travaillent pas. Les dossiers qui sont déposés au niveau des mairies, au niveau... Les dossiers ne sont pas suivis. Pourvu que tu déposes quelque chose sur la table, on te donne un OK, tu vas construire. Il y a trop d'anarchie. Les constructions ne respectent pas les normes. Les fossés sont étroits.
Est-ce que le curage des caniveaux est effectif également?
Bon, on le fait. Chaque année, on fait un curage de caniveaux, mais les caniveaux même sont petits. Et les gens, les populations sont indisciplinées. C'est eux qui remplissent ces caniveaux d'ordures. Ils s'asseyent au niveau de ces caniveaux pour prendre du thé, malgré les ordures. Ils contribuent à boucher ces caniveaux-là. À boucher ces caniveaux. C'est-à-dire que vraiment, c'est...
Youssouf Sissoko, à vous. Êtes-vous d'accord avec Shahana quand il pense que les régions du Nord sont plus touchées aujourd'hui?
Bon, je ne connais pas tellement les régions du Nord, mais moi, je suis de la région de Kayes. Effectivement, Kayes aussi est frappé par le même phénomène. Et surtout, Yelimane, qui est une ville très importante, est coupée quand même de la capitale régionale de Kayes, quoi. Puisque le pont qui relie, en tout cas, Yelimane à Kayes, ce pont-là s'est effondré à la suite, en tout cas, des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région. Donc, ça veut dire tout simplement que, en fait, il a bien fait de souligner, il y a une mauvaise urbanisation. En plus de ça, il y a un certain laxisme aussi au niveau de la gestion des collectivités. Parce que les collectivités, quand même, sont chargées de veiller, en tout cas, à l'assainissement, au curage, en tout cas, des caniveaux. Mais les mairies ne font pas ça. Et je ne sais pas si ça relève, en tout cas, de l'État. Sinon, franchement, c'est ça qui provoque souvent. Il a aussi évoqué la construction anarchique quand même des gens dans les lits du fleuve des Marigots. Parce que ça, c'est des passages naturels de l'eau. Alors, quand ces passages-là sont bloqués, forcément, l'eau va en tout cas changer de chemin et ça va se déverser en tout cas sur les maisons. Et si les maisons sont mal construites, certaines maisons sont bien sûr mal construites, elles vont s'effondrer, bien entendu. Donc, moi, je pense que tout ça participe en tout cas de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance en tout cas du pays.
C'est la mairie du district qui a en charge le curage des caniveaux dans le district
quand de Bamako. Pose la question à la mairie du district, elle te dira aussi que, bon, peut-être qu'elle manque de fonds. Et ces fonds doivent provenir d'où? Peut-être de l'État, je ne sais pas.
Comment... Quelle solution donc aujourd'hui?
Maintenant, la solution, c'est surtout la sanction. Parce qu'au Mali, tant qu'on ne sanctionne pas, franchement, ces mots-là ne peuvent jamais connaître, en tout cas, de remède. Il faut sanctionner, il faut situer les responsabilités. Et franchement, en situant les responsabilités, il faut prendre des mesures pour que ces choses-là n'arrivent jamais. Parce que c'est la population civile... La population qui est tout simplement victime, quoi. Et ça, c'est vraiment regrettable.
Yaya Tandina, la sanction est-elle la solution face à tous ces risques?
Bon, de toute façon, moi, je crois qu'à un certain niveau, je vous donne l'exemple de Tombouctou. La coopération suisse, il y a 3 ou 4 ans, a décidé d'accompagner Tombouctou quand même par rapport à la sauvegarde des mares pour la rétention des eaux de pluie. Et ceci étant, une quinzaine de mares a été ciblée. Alors, ces mares, aujourd'hui, on a pu faire 5. Et maintenant, je crois qu'ils ont changé de stratégie par rapport au reste du travail. Et c'est ce qui n'a pas plu peut-être à la commune. Finalement, vous voyez que le projet est arrêté. Donc, souvent, les communes se fixent 2 missions principales seulement. Le recouvrement des taxes et ensuite la question foncière. Donc, en dehors de ces 2 missions, la question de développement, pour elle, ça ne compte même pas. Et les populations ont du mal, parce que même les sessions sont tenues à un moment où les populations ne sont pas informées, à fortiori, à les déclarer, et ce qu'elles ressentent comme malaise. Donc, j'ai dit, pour le moment, ça, au niveau de la gouvernance, il faudrait que ces gens comprennent qu'elles sont là pour les populations, et les impôts et taxes-là qu'ils perçoivent doivent obligatoirement rentrer dans ce cadre. Malheureusement, comme je vous dis, Tombouctou déplore le fait que ces grands projets sont arrêtés et aujourd'hui les mares sont là et qui constituent des dangers pour des maisons. Alors que le projet a pris en compte non seulement les mares, mais aussi les populations qui sont tout autour pour aller les placer ailleurs où elles seront bien, on peut bien construire, où les familles seront à l'abri quand même de ces inondations. Et donc, je suis vraiment désolé. Tout récemment, l'ORTM a réalisé un grand truc sur les mares pour montrer quand même qu'elles jouent un rôle. Elles jouent un rôle très important, et surtout dans le cadre de l'inondation. Et si on ne fait pas attention, Tombouctou risque, surtout la médina risque de disparaître.
Shahana, si tous les acteurs sont fautifs et qu'il faut sanctionner, qui va sanctionner?
Vous savez, de 60 à nos jours, on peut trouver beaucoup de fautes. C'est-à-dire que, surtout par rapport au foncier, et surtout avec la démocratisation à partir de 1992, que l'urbanisation des villes, surtout de Bamako, a pris de l'ampleur. Avec les maires prédateurs, on vend tout et partout.
Il nous reste 30 secondes. Qui va sanctionner si tout le monde est fautif?
J'arrive. Qui va sanctionner? C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de fautes, qu'on ne sait même pas à partir d'où
sanctionner.
Il faut faire l'enquête pour venir. Moi, si je dois prendre les repères à partir de 92, venir. Si on le fait à partir de 92 en nos jours, nos prisons n'auront pas de place. Est-ce que vous voyez? Je pense qu'il va falloir à un moment donné s'arrêter et dire plus jamais ça, et qu'on soit très rigoureux, vigilant sur la situation. D'accord. On s'arrête à un moment donné, plus jamais ça.
Merci Chan Takiou du journal 22 septembre, Youssouf Sissoko du journal Info 7, Yeye Tandina de l'ORTM Tombouctou. À quand la fin de la crise sociopolitique au Mali et inondation au Mali? Pourquoi assistons au même scénario chaque année? C'était les thèmes abordés au cours de ce forum de la presse à la régie vidéo et audio Peting Diarra et Nouhoum Djiré. Je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain forum de la presse, vendredi prochain, c'est-à-dire.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmouni.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.